Il est 5h sur Europe 1. Bon réveil.
Le scénario le plus probable, c'est qu'il y aurait besoin d'une troisième dose, entre 6 et 12 mois après la seconde injection.
Faudra-t-il une troisième dose de vaccin et ainsi de suite chaque année? Le patron du laboratoire Pfizer juge cette hypothèse vraisemblable. Lui qui inspire toute l'industrie pharmaceutique, on va le voir, avec la technologie nouvelle de l'ARN messager. Les informations d'Europe 1 dans ce journal sur les trois hommes arrêtés et soupçonnés de l'enlèvement de la petite Mia, 8 ans, des suspects proches de l'ultra-droite. Et puis c'est la question politique du week-end, Yannick Jadot et ses chances de réussir ou non un début de rassemblement de la gauche.
À suivre les sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs et nos artisans. Nous serons au Pays Basque tout à l'heure chez notre fromager. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un message hier soir sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron. 100 000 Françaises et Français ont succombé au virus. Nous n'oublierons aucun visage, aucun nom, assure le président, lui qui venait de tenir deux réunions, Jean-Rémy Baudeau, pour travailler sur la réouverture du pays.
Oui, deux visioconférences, d'abord avec des maires, puis avec une dizaine de ministres. À chaque fois la même idée pour Emmanuel Macron, préparer les esprits et donner des perspectives. Au maire, le président est apparu, je cite, optimiste mais prudent. Emmanuel Macron a précisé que les hospitalisations devraient encore progresser jusqu'au 30 avril. La tension restera ainsi très forte, mais ça n'empêche pas le chef de l'État d'esquisser des dates sur les réouvertures. Au maire, le président a confirmé son objectif du 15 mai pour les terrasses et les musées. Ensuite, ça pourrait être par étapes de 3 semaines. À chaque fois, Emmanuel Macron promet des discussions locales en amont entre les préfets et les élus. Il pourrait même y avoir des ouvertures selon les territoires. Il y aura plus de co-construction, plus d'expérimentation, confirme un proche d'Emmanuel Macron. Au ministre désormais de tout mettre en musique. Voilà pour les pistes distillées par l'Élysée lors de ces réunions. Pour la parole officielle, il faudra encore attendre un peu. Là encore, Emmanuel Macron garde la main et entretient le flou. Son entourage laisse entendre qu'il s'adressera aux Français d'ici la fin du mois.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Hier, c'est Jean Castex qui a pris la parole lors d'un déplacement dans les Yvelines, annonçant une vaccination prioritaire pour certaines professions.
Les enseignants, les professionnels de la petite enfance, les policiers, les gendarmes, les surveillants pénitentiaires, priorité valable dès ce week-end et toujours parmi les plus de 55 ans. Et voilà une déclaration notable venue du patron du laboratoire américain Pfizer, celui dont le vaccin est pour l'instant le plus injecté en France, Albert Bourla, se projette sur le long terme, évoquant la nécessité de faire des rappels réguliers du vaccin pour conserver une réponse immunitaire suffisante.
Je pense qu'il y aura besoin d'un rappel. Il faut encore déterminer la fréquence, cela reste à voir. Le scénario le plus probable, c'est qu'il y aurait besoin d'une troisième dose, entre 6 et 12 mois après la seconde injection. Et ensuite, il y aurait un rappel annuel. Mais tout cela doit être confirmé. Et encore une fois, les variants joueront un rôle clé.
Albert Bourla, directeur général de Pfizer, qui dit ce matin au journal Les Échos que cette épidémie va devenir comme la grippe. Et selon lui, un retour à la vie normale est possible à l'automne en Europe.
Rappelons que le vaccin Pfizer repose sur la technologie nouvelle de l'ARN messager, comme celui de l'entreprise Moderna. Une innovation qui est en train d'être reprise par toute l'industrie pharmaceutique, Victor Delande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais cliniques de phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a dopé la recherche sur les vaccins à ARN messager, selon Bernard Verrier, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination à ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20 et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante et surtout plus de labos pour développer des vaccins ARN messagers. Ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles pour le monde entier dans les années à venir.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Il est 5h05 sur Europe 1. La petite Mia, enlevée mardi matin dans les Vosges, est toujours recherchée. Mais il y a eu 3 interpellations hier.
Oui, 3 hommes à qui la mère de la petite fille de 8 ans est suspectée d'avoir fait appel à Arthur Mbaché.
Oui, un homme de 23 ans, les deux autres la soixantaine, arrêtés avec l'aide du GIGN avant-hier soir et hier matin à 400 km des Vosges, à Paris et en banlieue parisienne. D'après nos informations, les enquêteurs, lors des perquisitions, sont tombés sur des documents qui prouvent leur participation au kidnapping, des papiers, des textes où on retrouve tous les éléments de ce scénario soigneusement préparé. Se présenter chez la grand-mère de l'enfant, se faire passer pour des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, prétexter un soi-disant rendez-vous avec les services sociaux, tout ce qui leur a permis de tromper la grand-mère, d'obtenir sa confiance et de repartir sans violence avec la petite Mia. Ces trois hommes sont connus et suivis par les services de renseignement, la DGSI, qui s'intéresse à eux parce qu'ils évoluent dans la mouvance dite de l'ultra-droite. Hier, les enquêteurs ont aussi trouvé chez l'un d'eux de quoi fabriquer des explosifs. L'enquête se poursuit ce matin pour retrouver Mia et sa mère, suspectés donc d'avoir commandité ce kidnapping en faisant appel à ces trois hommes qui sont, eux, en garde à vue à Épinal.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. La politique et l'homme qui va tenter l'impossible ce week-end. Yannick Jadot, il était l'invité hier soir de l'émission Vous avez la parole sur France 2. Rendez-vous médiatique à la veille de la réunion des dirigeants de la gauche en vue de 2022 qui se tiendra ce samedi dans un hôtel du nord-est de la capitale et dont il est l'initiateur.
Et l'occasion de répéter sa volonté d'union, Claudia Bertram, quitte à bousculer sa propre famille politique.
Oui, Yannick Jadot veut rassembler la gauche et il le martèle sur France 2.
Si nous voulons gagner, il faut une candidature commune.
Il en sera question demain avec les autres forces de gauche. Des discussions qui s'annoncent laborieuses car chacun vient autour de la table avec ses propres intérêts. Mais c'est surtout dans son propre parti que ça coince. Son initiative en a agacé plus d'un car Yannick Jadot impose le rythme à son camp et beaucoup le soupçonnent de vouloir enjamber la primaire des écologistes prévue en septembre. L'eurodéputé pourtant l'assure.
J'ai toujours été fidèle et loyal à ma famille politique.
Mais une fois de plus, il ne cache pas ses réticences.
Si la primaire de l'écologie sert cet objectif, évidemment j'y participerai. Si à un moment donné, collectivement, nous pensons que la primaire de l'écologie ne sert plus cet objectif, eh bien nous serons intelligents collectivement.
Problème, pas question pour le patron des Verts, Julien Bayou, d'en démordre sur le calendrier. Et la méthode choisie, si l'initiative de Yannick Jadot permet d'ouvrir le dialogue à gauche, l'union est loin d'être acquise. Et ça peut être à double tranchant pour l'eurodéputé. Un écologiste prévient, si ça ne marche pas, ce sera la démonstration qu'il n'est pas apte à rassembler.
Claudia Bertram.
Le Royaume-Uni se prépare aux funérailles du prince Philippe qui auront lieu demain après-midi à Windsor. Le palais a dévoilé les derniers détails de la cérémonie.
Oui, cérémonie que les Britanniques sont invités à suivre à la télévision. Pas de rassemblement, ce qui déçoit beaucoup à Londres. Reportage devant Buckingham Palace d'Anaïs Cordoba.
Nazareth est venue déposer une gerbe de fleurs au pied de Buckingham pour le prince Philippe. Demain, elle regardera les funérailles à la télévision, faute de cérémonie d'hommage national.
C'est vraiment dommage. Les gens pourraient au moins partager ce moment, cet hommage. Mais on ne peut pas à cause de la pandémie. Ça me rend très triste.
Christie, venue spécialement du nord de l'Angleterre pour les funérailles, compte se rendre devant Buckingham demain, bravant l'interdiction de se réunir devant les résidences royales.
On aurait quand même bien aimé voir une procession pour pouvoir lui rendre hommage. Il était une figure publique, alors quelque chose aurait dû être organisé pour nous. Nous, le public, nous sommes ceux qui soutenons la famille royale, qui leur donnons leur importance.
Mais d'autres Anglais, comme Phil, approuvent cet enterrement intime qui correspond aux souhaits du défunt prince.
Il était discret, il ne voulait pas de cérémonie en grande pompe. Je pense qu'il serait content de cette cérémonie réduite à cause du Covid. Il ne voulait pas de chichi.
Demain, le cercueil du prince Philippe sera accompagné à la chapelle Saint-Georges dans les jardins du château de Windsor par une procession composée uniquement de militaires et de membres de la famille royale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
C'était il y a un an tout juste, le chanteur Christophe disparaissait à l'âge de 74 ans, emporté par le Covid.
Oui, aujourd'hui, la nouvelle scène musicale, les artistes s'inspirent de sa musique, le réinterprètent et le rendent intemporel pour beaucoup d'entre eux. Angèle Châtelier.
Il y a un truc chez Christophe qui est hyper rare, c'est le populaire le plus élégant, quoi.
J'ai longtemps cherché.
Et pour Hervé, révélation masculine aux victoires de la musique cette année, Christophe était un précurseur, un technicien de la musique qui a toujours su capter l'air du temps.
Moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. Et c'est un amoureux du son. Le son, il disait toujours ça. Il écoutait vraiment absolument tout le temps. Les derniers trucs qui sortaient. Et je pense que c'est ça qui l'a fait rester dans l'air du temps. Il est plus vivant que jamais parce que le son de synthé, il est noble. Il sera toujours noble.
Je vois tout, j'entends tout. Je ne dis jamais rien.
Alors, Alors aujourd'hui, de nombreux artistes se réapproprient ses plus grands tubes, comme le groupe d'électropop parisien Therapy Taxi avec Aline.
Et j'ai crié, crié, et Aline, pour qu'elle revienne.
Ou encore Johan Papa Constantino, 29 ans, qui cumule des millions d'écoutes sur sa reprise des mots bleus, légèrement plus dansante que l'original.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Christophe était si curieux et à l'affût des nouveautés musicales qu'il y a encore 2 ans, il invitait les nouveaux artistes à succès dans un album de duo, comme Jeanne Haddad ou Juliette Armanet.
Jeanne Haddad et Juliette Armanet avec Angèle Châtelier.
Le vent d'hiver souffle en avril, c'est ce que chantait Christophe. On l'a bien senti cette année, il a plus que jamais raison. Christophe, c'était le journal de François Geffrier, 5h11.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports et on commence avec le tennis. C'est une grosse surprise à Monte-Carlo.
Un tremblement de terre battu. Exit le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui a perdu son 8e de finale, sorti en 2-7 par l'anglais Daniel Evans, 33e joueur mondial et qui n'avait jamais remporté un match sur cette surface lors d'un grand tournoi. Pour le Serbe qui a commis 45 fautes directes, c'est l'un de ses pires matchs. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Il n'y a par ailleurs plus de Français non plus. Lucas Pouille aussi a perdu. Mais après 2 ans d'absence sur la terre battue, le joueur ne voit que le positif.
C'est encourageant, il y a beaucoup de positifs et c'est ce qu'il faut retenir. Encore une fois, je ne m'attends pas à ce que tout soit parfait et ce que je fasse tout parfaitement. Donc après, c'est surtout jouer des matchs, reprendre le rythme en essayant d'avoir le même état d'esprit pour réussir de plus en plus à mettre mon jeu en place. Donc je suis plutôt content de ces 2 matchs, de ces 2 victoires. En tout cas, j'espère pouvoir enchaîner dès la semaine prochaine pour continuer dans cette lignée.
Lucas Pouille interrogé par Corinne Boulou. Pas de problème pour Raphaël Nadal, tombeur lui de Dimitrov. Il est en quart de finale.
La Ligue 1, ce soir, le foot et le leader Lille va jouer les éclaireurs.
Le LOSC reçoit Montpellier et va tenter de conforter ses 3 points d'avance sur le PSG qui ne jouera que dimanche face à Saint-Etienne. À 6 journées de la fin du championnat, le titre n'est pas encore gagné. Et puis en Ligue Europa, on connaît les qualifiés pour le dernier carré. Arsenal et Manchester United, l'AS Rome et les Espagnols de Villarreal.
Le handball à présent, et c'est la tuile pour l'équipe de France féminine.
Oui, qui a perdu sa capitaine Siraba Dembélé. Elle est blessée, elle ne disputera pas les Jeux de Tokyo. Ça devait être ses derniers puisqu'elle a 34 ans. Un sacré coup dur pour l'équipe et l'hommage de son sélectionneur Olivier Crumbles.
On perd une personnalité extraordinaire dans l'équipe. Donc elle a encore, la veille de son opération, elle a parlé à toute l'équipe et on a vu la dimension humaine que pouvait avoir Siraba. Et il est évident que la question se pose pour savoir quel est le capitaine. Donc j'y réfléchis, j'ai déjà une idée. Donc on ne remettra pas Amandine capitaine. J'en ai discuté avec Amandine parce qu'il y a des réunions où les gardiennes ne sont pas présentes puisqu'elles font énormément de vidéos. Et je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir une joueuse de champ comme capitaine.
Olivier Crumbles avec Axel May, les Bleus qui, cette semaine, sont en stage de préparation olympique à la Maison du Hand, c'est à Créteil.
Le chiffre du jour, c'est 1964.
Année de la création de la fameuse basket Stan Smith, du nom du joueur de tennis bien sûr, et bien elle se renouvelle. La marque Adidas la veut 100% végétale dans les 12 prochains mois. Un prototype a été présenté hier à base de cuir de champignons.
Ah ouais.
Le prochain chiffre, Sébastien, ce sera le prix. Pour l'instant, il n'est pas dévoilé.
Vous nous faites l'innovation du jour d'Anissé, là. La chaussure en champignon.
La chaussure champignon, c'est pas mal.
À tout à l'heure, Léna Ekmonier. Et nous découvrons à présent le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 612 Copsi. En dépit de ses 9 ans, il n'a que très peu couru, 37 sorties pour 16 victoires avec un taux de réussite proche des 50% à la gagne, ce qui témoigne de sa qualité intrinsèque. Après un début de carrière prometteur, il a ensuite été absent de la compétition pendant plus de 2 ans et demi en raison de problèmes de santé totalement résolus et il rattrape désormais le temps perdu. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 12, Copsi.
Merci Thierry Léger et on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure. Europe 1. 5h15 sur Europe 1, on va ouvrir les journaux ensemble avec toute l'équipe du 5-7. Omblin, qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse ?
Un exil en or pour les Rolling Stones au début des années 70. On part, allez, cap au sud, Villefranche-sur-Mer, près de Nice. Une villa majestueuse qui restera à jamais un haut lieu du rock.
Et puis moi, je vous emmènerai en Dordogne, vous allez voir un fast-food secoue la capitale du foie gras. Rien que ça, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h17, retour en classe pour les élèves le 26 avril en primaire et le 3 mai au collège et au lycée. Ces dates sont gravées dans le marbre, voilà ce qu'aurait dit Emmanuel Macron à des maires réunis en visioconférence hier. Contre les violences sexuelles sur mineurs, un projet de loi définitivement adopté au Parlement. Il fixe le seuil de consentement à 15 ans et à 18 ans en cas d'inceste. Et puis trois hommes en garde à vue à Épinal soupçonnés d'avoir enlevé la petite Mia mardi dans les Vosges. Mia et sa mère, elles sont toujours recherchées.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Commençons par le coup d'œil aux unes. Et d'abord, cette lueur d'espoir. Ça y est, la lumière au bout du tunnel, le calendrier du déconfinement qui semble se dessiner. Il est précisé dans les Échos ce matin par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui annonce que les lieux culturels et les terrasses des bars et restaurants pourront rouvrir à la mi-mai. Voilà, ce scénario est toujours sur la table. Comment préparer la sortie ? C'est aussi la une de la Dépêche du Midi. Et de Varmatin qui a mis à la une une photo d'une magnifique bière pression au soleil, avec modération bien sûr. Alors que la France a désormais dépassé les 100 000 morts du Covid, ce chiffre est aussi à la une de vos journaux dans le Midi Libre, mais aussi dans le Républicain Lorrain, la Voix du Nord. Aujourd'hui en France tente de faire le bilan des dégâts de cette semaine, cette deuxième même semaine de froid pour les agriculteurs en état de choc. Et puis la politique dans le Figaro ce matin, les enjeux des régionales, Grand Est avant la présidentielle et dans Libération, l'impossible rassemblement de la gauche, les galériens de l'Union, voilà le titre à la une. Allez, voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, on part donc sur la Côte d'Azur.
Ah oui, chez vous. Oui, sur le soleil de la French Riviera. Ah, on est un petit peu plus à l'est, mais c'est pareil. Des vacances en 1971, oui, quand les Rolling Stones ont investi la Villa Nelcott à Villefranche-sur-Mer. C'est-à-dire dans le Figaro, la Villa Nelcott avec ses occupants hors du commun, comme M. Goldberg, survivant du Titanic, qui en a raconté qu'elle avait servi de QG, cette maison aux nazis, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne serait pas tout à fait exact, mais il semble bien que des soldats allemands soient effectivement passés par là. Bref, ce sont véritablement les Rolling Stones qui ont fait entrer cette demeure prestigieuse du 19e siècle dans l'histoire et dans l'histoire du rock. On est après la tournée de l'album Sticky Fingers, dont on fête les 50 ans d'ailleurs cette année. Et pour des raisons fiscales, les Anglais s'exilent dans le sud de la France. Le guitariste Keith Richards décide de louer la Villa Nelcott et s'y installe avec femme et enfant. Le jeune photographe Dominique Tarlet est le témoin privilégié de cette époque bénie. Au début, il partage les vacances d'une famille anglaise avec des amis qui passent. Eric Clapton, John Lennon, Yoko Ono. Sympa les copains. Ensuite, il va assister à la création d'un chef-d'œuvre du rock. Il faut savoir que les autres membres des Rolling Stones sont dans les parages et tous se retrouvent dans la villa où on installe un studio d'enregistrement mobile. La musique la nuit dans la cave jusqu'à l'aube. Des virées en mer, des balades en voiture le jour et puis de l'alcool, de la drogue. Beaucoup. French Riviera rime à cette époque avec French Connection sur la Côte d'Azur. La villa est placée sous surveillance policière. Keith Richards file avec sa famille se réfugier en Suisse. Reste de cette résidence, un album culte, Exile on Main Street. Aujourd'hui, la Villa Nelcott est cachée par des panneaux barricadés par son propriétaire, un homme russe, richissime, qui en a fait l'acquisition il y a quelques années. Elle est
sublime, cette villa est magnifique.
100 millions d'euros. Voilà.
Ah oui, en même temps, elle est bien située. Vraiment sur le rocher, la petite plage en bas, la piscine.
Sympa,
villa magnifique. Allez voir sur internet. Villa Nelcott, sa ville Franche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur.
C'est
à lire dans le Figaro.
Et pas loin, à Marseille, il y aura une exposition des Rolling Stones à partir du 10 juin jusqu'au 5 septembre. Plus de 400 objets inédits, ça va se passer au Stade Vélodrome, exposition qui s'annonce exceptionnelle.
En croisant très fort les doigts pour que tout ça puisse bien sûr ouvrir. De la Côte d'Azur, allez, on va aller dans le Périgord, direction la Dordogne, où aujourd'hui en France nous annonce qu'un McDo enflamme la capitale du foie gras. À Thiviers, l'arrivée d'un fast-food secoue toute la ville. Thiviers, entre Périgueux et Limoges, capitale du foie gras en Périgord vert. Voilà ce qui est écrit sur le site internet de la ville. 2900 habitants. et dans le paysage des élevages d'oies, de canards, de chèvres et de limousines. Alors il y a quand même la zone commerciale au bord de la Nationale avec le supermarché.
Bon,
bien c'est là qu'il y aurait un projet d'installer un fast-food, projet présenté aux élus de la ville. Un McDo qui plus est en face d'un collège et d'un lycée professionnel. Alors ça ne plaît pas du tout au pays de la bonne bouffe. Un collectif citoyen s'est formé, pétition en ligne, 700 signatures. No pasaran, dit une participante. C'est l'antithèse, dit-elle, des valeurs de notre territoire. Alors ce qui n'est pas clair dans cette histoire, c'est que McDo dément. En fait, l'enseigne n'a aucun projet à Tilly. En fait, ce sont deux promoteurs qui avaient imaginé ce projet d'implantation, mais McDo s'est jamais finalement engagé avec eux. Mais en tout cas, ça fait parler sur le marché. Un vendeur de foie gras verrait l'arrivée de ce fast-food comme une provocation. Il est déjà prêt à riposter avec son McDo. son burger. McDo. Oui, oui, avec le burger au magret.
Ah oui, ouais, doigt.
Ça a l'air bon. Et doigt, oui.
Magret doigt. Non, on a bien compris. Oui.
La maire de la ville, elle préfère y voir les emplois créés dans cette commune où le taux de chômage des moins de 25 ans est à 25%. Et elle affirme qu'une majorité silencieuse voit dans ce fast-food un signe de jeunesse et de dynamisme. En tout cas, il y en a à qui ça plaît, ce sont les jeunes de la ville. Le McDo, ils l'attendent depuis des lustres. Aujourd'hui, il faut faire 70 km aller-retour pour aller manger un Big Mac. Ça fait cher le Big Mac. Il faut aller jusqu'à Périgueux. Je peux prendre le train pour un McDo, dit une jeune étudiante. J'y serai tous les jours, dit un autre. Et si c'est un KFC, eh ben c'est bien aussi. Voilà. Alors visiblement, McDo a démenti, donc c'est pas fait. Mais ça continue. Le McDo qui enflamme la capitale du foie gras, c'est-à-dire aujourd'hui en France. Allez Martin, on termine avec vous.
Oui, avec Will Smith qui boycotte l'État de Géorgie. L'acteur devait y tourner son nouveau film Émancipation, une super production sur l'esclavage. Mais le tournage a été interrompu pour contester une loi qui vient d'être signée par le gouverneur de cet État du sud des États-Unis. C'est le site Presse Citron qui revient sur ce boycott.
Et quel est le problème avec cette loi ?
Alors, elle interdit la distribution d'eau et de nourriture dans les files d'attente des bureaux de vote lors des élections. Le gouverneur explique que c'est pour éviter d'acheter des voix dans la dernière ligne droite. Mais selon de nombreux spécialistes, cette mesure cible surtout les Afro-Américains. Statistiquement, les files d'attente sont plus longues dans leur quartier car ils ont moins de bureaux de vote que dans les quartiers majoritairement blancs. Cette nouvelle loi vient toller aux États-Unis. Certains la comparent aux lois Jim Crow. C'est ces mesures qui, jusque dans les années 60, limitaient les droits des Afro-Américains. C'est ce qu'explique Will Smith dans un communiqué. Les nouvelles lois en Géorgie rappellent les entraves au vote qui ont été adoptées à la fin de la guerre de sécession pour empêcher de nombreux Américains de voter, écrit-il.
Et Will Smith, d'ailleurs, n'est pas la seule star à se mobiliser sur ces questions.
Non, pas du tout. Des centaines de grands patrons et de célébrités ont signé une tribune mercredi pour dénoncer ces nouvelles lois républicaines. Alors, il y a Amazon, Facebook, Warren Buffett, George Clooney, même Naomi Campbell, pour ne citer qu'eux. Ils s'opposent à ces mesures qui limitent l'accès aux urnes, car la Géorgie n'est qu'un exemple. Depuis la défaite de Donald Trump en novembre dernier, de nombreux États du Sud, historiquement conservateurs et qui ont subi la percée de Joe Biden, tentent par tous les moyens de rester dans le giron républicain. Et selon eux, ça passe surtout par limiter le vote des minorités.
Ouais, et on sait combien la Géorgie a été un état clé extrêmement serré. Il y a eu le recomptage, souvenez-vous, on n'avait pas les résultats pendant 3 jours après la présidentielle du mois de novembre. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour. Merci. Il est 5h25.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes au Pays Basque pour les doigts dans l'assiette ce matin. Bonjour Beñat Moiti.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre fromager à Saint-Jean-de-Luz. Comment allez-vous ?
Bien. Un peu frais, mais ça change des douceurs qu'on a eues janvier et février.
C'est là, ça. On a l'hiver après le printemps, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, on s'arrête chaque fois avec vous sur vos produits et sur les produits que vous nous présentez, les produits locaux. Où est-ce qu'on va ce matin ?
Ce matin, on va aller à Hyères, c'est au-dessus de Bayonne, du côté d'Asparin.
Ouais.
Je vais vous parler de Maina et Michel, qui sont des... Maina et Michel et Tubéry, qui sont des producteurs de chèvres. Ils ont fait le choix de prendre une race ancienne qui est en voie de disparition, c'est la chèvre des Pyrénées. Et ils ont 190 chèvres. Ils sont au maximum à l'herbe, ouais. À 90% d'autonomie au niveau de l'alimentation. Donc c'est une belle démarche de leur part. Et c'est ce qui est pas facile parce qu'il faut sortir les bêtes tous les jours, trouver le moment, je crois, à cette époque-là, il faut les sortir un peu plus tard parce qu'il fait vraiment froid. Et il faut gérer après toute la partie fabrication par rapport à ça qui est décalée suivant le moment où on les fait sortir. Et
Donc c'est un élevage traditionnel, en fin de compte, ils gardent les techniques d'élevage les plus traditionnelles possibles, quoi.
Oui, c'est des retours en arrière, en fin de compte, de ce que faisaient les anciens. Et ça permet d'avoir une qualité de lait qui est au top et de sortir des produits de qualité.
Alors qu'est-ce qu'ils font comme fromage ?
Il faut savoir que la race des Pyrénées fait beaucoup moins de lait que les autres, mais plus riche en goût. Et du coup, on est sur des. Ils font des briquettes, ils sont sur des textures très crémeuses. Ils font des palets assez gros qui ressemblent à des talois. Les talois, c'est une galette au Pays Basque de maïs, où on met un peu d'œuf, de lardons. C'est très, très crémeux, très fin dans la dégustation. Et on a fait aussi avec eux un fromage qui est en forme de cône. C'est une tome qui fait à peu près un kilo, qu'on a appelé le cachecot. Le cachecot, ça veut dire le sommet en basque. Et c'est un fromage qu'on a fait dans un chinois. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un chinois, c'est des passoires de cuisine.
Une sorte de passoire, oui.
Et on leur a permis de créer un moule pour des périodes comme le Covid où il y a moins de sorties de fromage pour eux. Et c'est un fromage qui peut tenir facilement un mois et demi. Donc, comme ils sont en période de fabrication, que les fromages de chèvre, il faut que ça sorte toutes les semaines. Avec une tombe comme ça, ça leur permet de fabriquer des fromages qu'ils pourront vendre un peu plus tard.
Ouais.
Quand il y aura un peu plus de monde.
Des fromages crémeux, évidemment, plein de goût et de saveur. 190 chèvres, elles sont toutes en bio, en plus de tout ce que vous nous avez dit.
On fait la démarche d'être en bio. Et puis, ils font une démarche collective sur la race des Pyrénées pour essayer de mettre en avant leur travail. Et on va essayer de créer un événement là-dessus pour mettre en avant leur travail et que les gens comprennent leur façon de travailler, de pas et que comme les gens peuvent être retenus par le prix du produit parce qu'il fait moins de lait,
Et c'est ce qu'on essaye de faire chaque matin, évidemment, dans les doigts dans l'assiette, mettre en avant le travail des producteurs, les bons produits locaux. Leurs produits, on les trouve évidemment au Pays Basque, chez vous, Beignat Moiti, sur le marché dans les Halles de Saint-Jean-de-Luz.
Quelques belles tables du sud-ouest.
Et quelques belles tables, Maïna et Mizel et Echeberri, voilà, près de Bayonne. Merci à vous, Beignat Moiti, à bientôt dans les doigts dans l'assiette.
Au revoir.
Il est 5h29 sur Europe 1, on va retrouver Laurent Cabrol pour la météo de ce vendredi. Laurent.
Oui, la connotation d'hiver dont nous parlons depuis plusieurs jours se concrétise aujourd'hui encore, avec certes un ciel dégagé ce matin. C'est un peu le même scénario qu'hier, à la même heure. Un ciel dégagé, mais avec, au fil des heures, des nuages qui vont envahir pratiquement toute la France. Ces nuages vont être menaçants, au point de donner des averses, parfois même des chutes de neige sur la région Rhône-Alpes, la Provence, la Côte d'Azur, l'Auvergne. Les chutes de neige n'apparaissant bien sûr qu'à partir de 500 mètres ou 800 mètres. Et puis les températures sont des températures basses encore. Moins 5 à Montluçon en ce moment, moins 3 à Épinal, 0 à Dijon, 1 degré à Mâcon, 2 à Paris, 5 à Dunkerque. Vous voyez que ces températures vraiment sont aussi basses que celles d'hier. D'ailleurs, cette journée ressemble un petit peu à celle de jeudi et nous aurons dans l'après-midi un thermomètre qui va osciller entre 10 et 15 degrés selon les contrées, 10 à 15 degrés, là encore, des températures hivernales.
Merci à vous, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil avec Europe 1, tout de suite l'information, votre journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
Quel est le niveau de perte ? En fruits, c'est aux alentours de 20 à 30%. Donc il y aura des fruits, mais il y en aura moins. Et pour certains producteurs, il n'y en aura pas du tout.
Les fruits français plus rares et sans doute plus chers aussi cet été. La faute à l'épisode de gel qui a frappé les cultures la semaine dernière. État des lieux dans un instant. La vaccination en Europe en mode diesel. Des débuts plutôt lents et une accélération désormais avec toujours l'objectif d'une immunité collective atteinte dès cet été. Dans ce journal aussi, un colosse au pied d'argile. Lille, leader de la Ligue 1 malgré une dette abyssale.
Après le journal, la vaccination produit ses effets et c'est la vie qui reprend enfin dans les EHPAD. La quasi-totalité des résidents ont reçu au moins une dose et le nombre de décès chute considérablement. Je reçois dans 10 minutes la déléguée générale du syndicat des établissements pour personnes âgées, Florence Arnaise-Maumet.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
2 milliards d'euros de pertes pour le secteur viticole. 2 milliards d'euros de pertes aussi pour l'arboriculture. Des chiffres vertigineux après l'épisode de gel de la semaine dernière. Intempéries qui auront aussi mécaniquement des effets sur notre consommation cet été.
Oui, risque-t-on une pénurie de certains produits ? Élément de réponse ce matin avec Pierre Herbulot et les représentants du monde agricole.
Les cerises, les pêches, les nectarines, les abricots.
La liste est interminable.
Les noix, les noisettes, les kiwis, les fraises, les framboises, les cassis.
Celle des fruits touchés par les gelées de ces 10 derniers jours. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, prévient cet épisode climatique va devenir très concret pour le grand public sur les étals cet été.
Quel est le niveau de perte ? En fruits, c'est aux alentours de 20 à 30 %. Donc il y aura des fruits, mais il y en aura moins. Et pour certains producteurs, il n'y en aura pas du tout.
Pour les fruits à noyaux, cerises, pêches, abricots, les pertes pourraient même dépasser les 60% de la production. 1300 tonnes de cultures perdues en une nuit pour Patrice Vulpian, vice-président de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Conséquence directe, les prix vont augmenter.
Dans le pire des cas, il va y avoir une augmentation de 50 centimes au kilo. Après, de toute façon, c'est le marché qui commande. L'ambiance globale sur le marché qui fera le prix. Bon, sachant, encore une fois, je le répète, qu'on ne pourra pas aller au-dessus de certains prix. On ne peut pas vendre des pêches à 10 euros le kilo. Hein.
Seule petite consolation pour les agriculteurs, la concurrence des produits étrangers, en particulier espagnols et italiens, devrait être plus faible cette année. Là-bas aussi, le gel a fait des ravages.
Pierre Herbulot. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la petite Mia enlevée dans les Vosges mardi chez sa grand-mère. Les trois ravisseurs présumés proches de l'ultra-droite ont été arrêtés. La maman de l'enfant qui pourrait avoir commandité le rapt n'a pas encore été retrouvée.
C'est le nerf de la guerre contre le Covid. La vaccination dont l'efficacité vient une nouvelle fois d'être démontrée avec la chute spectaculaire de la mortalité dans les EHPAD.
26 fois moins de décès aujourd'hui par rapport à novembre dernier. 95% des résidents d'EHPAD ayant reçu au moins une dose. Et si les doutes sur certains vaccins persistent, le gouvernement l'assure, le calendrier vaccinal n'est pas remis en cause. Dès aujourd'hui, injection possible, dès 60 ans sans comorbidité.
Et les EHPAD, on va en reparler juste après le journal avec mon invité. Par ailleurs, ce week-end, les enseignants, forces de l'ordre, professionnels de la petite enfance, âgés de plus de 55 ans, pourront accéder à des créneaux réservés de vaccination.
Cette accélération en France, elle se constate aussi dans toute l'Europe. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé dénonçait la lenteur inacceptable de la campagne de vaccination sur le continent, mais les choses sont en train de changer, hein.
Oui, grâce au rythme de plus en plus rapide des vaccinations. Record battu cette semaine en Allemagne avec presque 740 000 injections en une journée. En France, c'est désormais entre 400 et 500 000 par jour. 100 millions d'Européens ont déjà reçu une piqûre. Le chancelier autrichien parle d'un effet ketchup. Au début, quand vous tapez sur la bouteille, rien ne vient. Et ensuite, d'un coup, tout atterrit dans votre assiette. Plus de 410 millions de vaccins sont attendus d'ici la fin du trimestre. Pfizer livrera 50 millions de doses de plus que prévu. Nous sommes prudemment optimistes, dit l'entourage d'Ursula von der Leyen, qui garde quand même un œil vigilant sur AstraZeneca et Johnson & Johnson. On a serré les dents quand on s'est fait traiter d'incapable, raconte une source bruxelloise. L'Europe, c'est long à se mettre en place, mais ensuite, c'est un paquebot. À Bruxelles, les calculettes sont sorties. L'objectif de l'immunité collective à l'été semble atteignable, avec 70% de la population adulte vaccinée, et même plus peut-être. Certains veulent croire que la tortue européenne va finir par dépasser le lièvre britannique.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
La vaccination qui permettra progressivement une réouverture des commerces, et l'objectif de la mi-mai a été réaffirmé hier par Emmanuel Macron.
Réunion en visioconférence avec des maires, puis avec une dizaine de ministres, avec une priorité donnée aux terrasses et aux musées. Concernant les écoles, calendrier confirmé de reprise progressive dès le 26 avril.
Les établissements scolaires fermés, donc encore pour au moins 10 jours, avec pour les parents en télétravail, autant de doubles journées à organiser.
Des parents qu'une entreprise du Nord a décidé d'accompagner. Le patron de Sarbacane, société de marketing digital installée près de Lille, offre à ses salariés une semaine de vacances pour compenser ses journées à travailler en s'occupant des enfants. Reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot.
À l'annonce des écoles fermées et des vacances avancées de 2 semaines, Paul Defombel, le directeur général de chez Sarbacane, a tout de suite senti un petit vent de panique chez ses 110 salariés.
En pratique, c'est simple, on a vraiment beaucoup de jeunes familles, avec tout le monde se posait la question en disant qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va poser une semaine de vacances maintenant ? Parce qu'il faut qu'on trouve une solution pour faire garder les enfants. Oui, mais c'est dommage pour cet été. Enfin, voilà, on a réglé le problème.
Régler le problème en offrant 5 jours de congés supplémentaires, de quoi permettre par exemple à Cécile Leroy, responsable RH, d'assurer la garde de ses deux enfants de 2 et 6 ans.
Je m'occupe de mes enfants, j'ai pu poser les 5 jours d'affilée pour pouvoir m'occuper d'eux toute la semaine prochaine. Ouais. Donc c'est vraiment une chance parce que le besoin il est là tout de suite maintenant. Ça évite d'aller puiser dans les congés et de les garder pour cet été. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous.
5 jours offerts en guise de gratification après une année de forte croissance pour l'entreprise, mais aussi parce qu'entre télétravail et contraintes sanitaires, beaucoup de collaborateurs avaient besoin de ce break.
On connaît tous dans nos entourages des personnes pour qui la situation commence à être longue. Et oui, il y a des lassitudes et on voit que même avec des très bons résultats, les équipes ont une certaine fatigue et que oui, il faut savoir aussi prendre soin de soi dans des périodes qui sont compliquées.
Congé payé sur le compte de l'entreprise qui d'ailleurs, depuis le début de la crise, n'a sollicité aucune aide financière publique. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
C'est l'image de la nuit, elle nous vient des États-Unis, vidéo qualifiée d'insoutenable par le maire de Chicago. Elle montre un policier abattant un garçon de 13 ans. L'agent lui ordonne d'abord de s'arrêter et de lever les mains. Et au moment où celui-ci s'exécute, les tirs retentissent. L'enfant n'était pas armé, précise l'avocate de la famille.
Le foot est un leader quasi incontesté, mais pourtant fragilisé. À 6 journées de la fin de la Ligue 1, la crise couve au sein du club de Lille.
Oui, qui affronte ce soir Montpellier en ouverture de la 33e journée du championnat. Le LOSC au sommet sportivement, mais dans un gouffre financièrement. Pour Europe 1, Marguerite Lefebvre.
Sur le terrain, ils sont impressionnants de régularité. Les joueurs de Lille ont disputé 32 matchs, n'en ont perdu que 3, et ils ont passé près de la moitié de l'année en tête du championnat. Mais au-delà de ces statistiques flatteuses, le LOSC, c'est aussi ce leader au pied d'argile. Au bord de la faillite il y a 4 mois, le club a dû être racheté in extremis à Noël. Le Covid et Mediapro n'expliquent pas tout. Mickaël Terrien est économiste du sport à l'Université de Lille.
On est face, dans le cas du LOSC, à soit de l'incompétence managériale crasse, soit une pratique à la frontière de la légalité ou de la moralité. C'est quelqu'un qui a acheté le club avec l'argent de quelqu'un d'autre et qui l'a certainement utilisé pour s'enrichir lui-même.
Résultat, en milieu de saison, le président a changé, l'actionnaire également, mais la dette, elle, est toujours abyssale. Il va sans doute falloir vendre des joueurs avant l'été. Et comme si cela ne suffisait pas, on annonce aussi le départ de l'entraîneur Christophe Galtier pour Lyon la saison prochaine. Autant d'éléments perturbateurs dont les joueurs vont devoir faire abstraction à 6 journées de la fin du championnat. Et alors que le titre leur tend plus que jamais les bras.
Marguerite Lefebvre pour Europe 1.
Et on y reviendra bien sûr avec Lénaïque Monnier, la page des sports complète tout à l'heure à 6h10 sur Europe 1. Il est 5h38 et on va retrouver Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
Direction Vincennes pour un quintet en semi-nocturne, une course européenne qui réunira 16 trotteurs tous âgés de 5 ans, avec un favori solide, le numéro 9, Gaspard de Brion, titulaire de 3 victoires depuis le début de l'année en seulement 4 tentatives et dont les limites actuelles sont encore inconnues. On lui opposera les numéros 2, Horace SL et 16, Allegra WF, deux juments italiennes précédées d'une flatteuse réputation et qui se sont déjà distinguées à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse. Ensuite, je vous conseille Good Friday, le numéro 15, déjà vainqueur d'un quintet similaire cet hiver à Vincennes, mais aussi Galon de Vire, le numéro 8, ménagé ces derniers mois et dont la course de rentrée le 30 mars à Enghien laisse augurer une très belle performance dès aujourd'hui. Enfin, les numéros 4, Galiléo Bello, 14, Glorani Denoé et 6, Jim Duplessis compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 2, 16, 15, 8, 4, 14 et 6.
Merci à vous Thierry Léger, tous vos pronostics sont sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h20 et nous parlons ce matin de la situation dans les EHPAD avec la première invitée du 5-7, Florence Arnaise-Maumet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale du SINERPA, le syndicat national des établissements et résidences privées d'aide aux personnes âgées. Il y a un an, les résidents étaient bouclés dans leurs établissements, interdiction de recevoir la moindre visite et l'épidémie faisait des ravages. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pensionnaires ont reçu leur première dose de vaccin et les trois quarts ont même eu les deux. C'est, j'imagine, une bouffée d'oxygène pour tous ces établissements et pour tous ces résidents.
Au bout de 4 mois de campagne vaccinale très intensive, nous sommes vraiment très heureux d'afficher des chiffres déjà de protection très importants. 98% des résidents ont eu une première dose, 72% une deuxième dose. Sur la vaccination des salariés, nous progressons également beaucoup ce mois-ci avec de nouvelles livraisons de vaccins Pfizer en avril et en mai. Donc nous atteignons un taux de vaccinal d'environ 50% pour les salariés. Donc encore à faire progresser dans les 2 prochains mois. Mais globalement, nous avons une très belle couverture et une belle protection au bout des 4 mois de vaccination. Donc nous sommes soulagés, heureux et évidemment, il y a de vrais résultats. Alors, ils sont peu audibles actuellement parce que la France traverse de plein fouet la 3e vague. Mais sachez qu'en EHPAD, en tout cas, la situation va nettement mieux. Elle n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu l'an passé, ni même ce que nous avons connu lors de la 2e vague, qui s'est vraiment étirée tout au long du mois de janvier-février. Donc aujourd'hui, vraiment une baisse du nombre des décès, une baisse significative du nombre des contaminations. La situation va très nettement mieux en EHPAD.
C'est très important et je vais vous donner ce chiffre pour compléter ce que vous dites. En 3 semaines, le nombre de morts dans les EHPAD a été divisé par 15, autour de 800 décès par semaine au début du mois de février. Désormais, c'est 50 à la mi-avril. Je m'arrête juste sur le chiffre que vous avez donné pour les salariés. 50% seulement des salariés, des soignants dans les EHPAD sont vaccinés. Est-ce que ça veut dire que vous avez observé, comme dans d'autres établissements de santé, une forme de défiance parfois, de réticence à se faire vacciner de la part des soignants ?
Alors, il y a 2 sujets sur la vaccination des salariés. D'abord, elle a commencé après celle des résidents, puisqu'ils n'ont pas été prioritaires en première intention. Au CINERPA, nous l'avions réclamé, qu'ils soient intégralement prioritaires dès janvier. Ça n'a pas été la politique vaccinale. Nous avons donc d'abord dirigé nos vaccinations vers les salariés de plus de 50 ans ayant des comorbidités. Donc, ça a réduit le spectre vaccinal en début de session. On sait par nature et par habitude sur la vaccination anti-grippe que les personnels et les soignants notamment sont peu consentants à la vaccination nouvelle, donc ça a été à prendre en compte. Et enfin, effectivement, les débats autour de l'AstraZeneca ont renforcé l'envie des personnels de profiter des vaccinations Pfizer en EHPAD. Donc on a depuis quelques semaines un vrai développement de la vaccination auprès des salariés.
Et les personnes très âgées, les résidents, ont bien supporté le vaccin, pas d'effets secondaires notoires dans les EHPAD ?
Non, justement, le Pfizer, son grand intérêt, c'est que nous avons peu d'effets secondaires. Il a été très bien accepté par les résidents, par les salariés également. Donc à tout âge, nous avons eu de très bons retours par rapport à ça. Et au contraire, une protection qui s'affirme de jour en jour. Et on attendait des résultats sur les contaminations, puisqu'on savait qu'ils permettaient d'éviter les formes graves, mais nous n'avions pas de certitude sur l'absence de contamination, sur son côté stérilisant. Et les nouvelles sont plutôt bonnes, puisque là encore, de 4000 et quelques contaminations par semaine que nous avions début février, nous sommes passés à moins de 1000 contaminations semaine, donc c'est vraiment très faible. Le virus circule encore un petit peu, attention, en EHPAD, très faiblement. Nous avons pu avoir quelques cas post-vaccination sur les organismes très très fatigués, très malades. Le vaccin, comme tout vaccin, peut ne pas apporter la totalité de la protection. Donc parfois, évidemment, il y aura encore des passages et des entrées de Covid. C'est pour ça que nous maintenons quand même des mesures barrières importantes, même si nous avons beaucoup assoupli les visites, les animations. La vie reprend en EHPAD, puisque nous ouvrons à nouveau les salles de restaurant. Donc vraiment...
La vie reprend, ça veut dire que toutes les restrictions qui étaient liées aux visites désormais sont levées ?
Alors, une grande majorité sont levées. Les visites en chambre sont à nouveau permis et organisés dans la grande majorité des cas. Ce qui reste encore, ce sont des visites par rendez-vous. En fait, pour éviter qu'il y ait une affluence à certaines heures et à un certain moment de la journée, comme ça peut être le cas dans la vie normale, dans le cadre de la vie normale, matinale où les visites se font beaucoup autour du déjeuner ou en fin de journée, eh bien là, c'est encore des prises de rendez-vous pour visite, mais on peut maintenant faire à nouveau des visites en chambre et retrouver quand même l'intimité avec le résident, cette intimité qui avait été trop longtemps suspendue entre les familles et leurs parents.
Et vous voyez, j'imagine, déjà des effets sur, sur le moral de ces résidents ?
Absolument, hein, la vie reprend vraiment, puisque les animations également. Alors, l'habitude a été prise hein, pendant un an de crise de faire des petites animations en petits groupes tout au long de la journée. Donc, bien sûr, la vie reprend avec animation, avec restauration, avec les familles, même de façon encore encadrée et encore masquée. Mais la vie reprend et c'est une grande satisfaction avec, comme vous l'avez rappelé, des chiffres de décès qui ont dégringolé. Et la courbe est revenue aux chiffres de septembre, hein, qui était le mois, le taux de décès le plus faible depuis le début de la crise. Donc nous attendions vraiment de revenir à ces nombres de contaminations et de décès et nous sommes vraiment très très heureux et très soulagés. Maintenant, nous avons quand même une demande au long cours parce que ce qu'il manque maintenant, c'est l'assurance que les EHPAD, les 7000 EHPAD de France, auront au long cours chaque mois de nouvelles livraisons. Parce qu'on nous explique maintenant que nos livraisons vont s'arrêter mi-mai. Or, l'EHPAD est un lieu où on circule quand même beaucoup. Il y a des entrées, il y a des sorties, des résidents nouveaux entrants qui vont arriver non vaccinés, des salariés qui vont remplacer des salariés pendant l'été qui ne vont pas être vaccinés. Et nous avons donc besoin impérativement, pour maintenir un très bon taux de protection, d'avoir tous les mois au moins 50 000 doses, entre 50 et 100 000 doses de vaccins pour les 7 000 EHPAD de France.
Et pour l'instant, ils ne sont pas garantis. Si
absolument, ils ne sont pas garantis. Nous l'avons demandé au ministère de la Santé. Nous attendons un retour et nous espérons bien obtenir gain de cause sur cette livraison en continu pour encore de nombreux mois.
La vie qui reprend dans les EHPAD. Merci à vous, Florence Arnaise-Momé, déléguée générale du syndicat des établissements et résidences de services pour les personnes âgées. Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Europe 1.
Il est 5h47 sur Europe 1, c'est l'heure de mettre en lumière tous ceux qui font bouger la France à travers le pays. Où est-ce qu'on va aller, Naïk Monnier,
ce matin ? On va sillonner les routes de Dordogne ce matin à bord du Fraternibus. L'objectif, aller à la rencontre des personnes les plus isolées et ne laisser évidemment personne sur le bas-côté.
A tout de suite pour La France bouge sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h49, la réouverture des terrasses et des musées à la mi-mai, puis des réouvertures par étapes toutes les 3 semaines. Voilà le scénario progressif envisagé par Emmanuel Macron après 2 réunions hier avec les maires et avec une dizaine de ministres. Faudra-t-il une 3e injection pour le vaccin Pfizer et un rappel annuel ensuite ? Le patron du laboratoire ne l'exclut pas. Il a invoqué son droit à ne pas s'incriminer. Le policier Derek Chauvin, jugé pour le meurtre de George Floyd aux États-Unis, a refusé de témoigner à son procès. Fin des audiences, réquisitions et plaidoiries sont prévues lundi. Et puis la générosité des Français ne faiblit pas. Un résultat exceptionnel dans le contexte que nous connaissons. Les organisateurs du Téléthon sont satisfaits. Le Téléthon récolte cette année plus de 77 millions d'euros.
Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Lénaïque Monnier, direction la Dordogne.
Oui, avec une initiative solidaire qu'on met au crédit du Secours catholique ce matin. Un fraternibus qui va et vient à travers la campagne et les places de village. Le but, c'est de créer du lien, de développer de la convivialité autour du camion. Anticiper, aller au-devant des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui sont plutôt réticentes à pousser la porte d'une association. Le plus difficile, disent les habitants très isolés dans des hameaux par exemple, c'est de sortir de chez soi, d'oser demander de l'aide. Ce fameux premier pas vers l'autre. Alors, dans ces cas-là, on sort la camionnette, l'auvent, la table de camping, les chaises pliantes et c'est parti pour un petit café sur cette terrasse éphémère, mais autorisée. Parfois.
Ouais, c'est déjà une chance.
C'est comme ça, c'est important. Et parfois, on s'aperçoit que des personnes qui vivent à quelques kilomètres les unes des autres seulement, eh bien, elles se rencontrent pour la toute première fois.
Et voilà, il ne suffit pas grand-chose parfois pour créer du lien. Alors, qui participe à ce projet ?
Alors, des bénévoles, mais il y a également des jeunes qui effectuent en ce moment un service civique. Ils sont là pour écouter, pour orienter. On leur demande une demi-journée de disponibilité par semaine, donc c'est très faisable. Parfois, les personnes seules qui n'ont pas de connexion Internet efficace, qui ont du mal à savoir vers qui se tourner pour obtenir une aide ou simplement eh bien, pour les pousser à aider à leur tour. C'est un cercle vertueux, être un mode d'action que la crise sanitaire a rendu d'autant plus nécessaire qu'elle frappe les populations qui, jusqu'à présent, n'avaient pas l'habitude d'avoir un recours aux associations. En fait, il fallait oser aller demander de l'aide.
Et on comprend qu'encore plus dans le monde rural, c'est peut-être encore plus compliqué. Alors, est-ce que ce Fraternibus existe ailleurs qu'en Dordogne ?
Oui, il existe dans l'Eure, également du côté de Vannes, partout où le secours catholique local en fait, peut se payer un véhicule et trouver évidemment aussi quelqu'un pour le conduire.
Voilà, le Fraternibus créé par le secours catholique. Dans la France bouge, merci Lénaïque Modier. Il est 5h52. Martin Lange, on explore avec vous les réseaux sociaux qui nous réservent toujours des surprises tous les matins.
Et oui, parce que ce matin, je vais vous parler d'une nouvelle tendance vestimentaire, hein, plutôt le retour d'une mode qui redevient branchée grâce à la vaccination contre le Covid. Hein. Cette tendance, c'est le off-shoulder, hein, l'épaule dénudée en français. C'est ces vêtements asymétriques qui laissent voir une de vos épaules. Très pratique, évidemment, le jour de votre vaccination.
C'est ça, alors, pas obligé d'enlever le haut, quoi.
Exactement. Là, on arrive prêt à être piqué. Alors, Sébastien, sachez que les robes de ce type cartonnent en ce moment à plus 68% de ventes par rapport à l'année dernière selon le site Stylight. C'est plus 63% pour les t-shirts. Hein. Un vrai boom à la fois aux États-Unis et en Europe.
C'est incroyable. Mais c'est vraiment dû à la vaccination. C'est vraiment ça l'explication ?
Alors, cette mode au départ, elle est née dans les années 70 hein, avec le disco. Ouais. Vous avez peut-être en tête quelques clips vidéo. Mais cette fois, pour son retour, pas de musique, c'est vraiment la vaccination contre le Covid qui crée l'engouement avec un mouvement sur les réseaux sociaux, Vaccine Ready, prêt pour le vaccin, et des stars qui publient des photos d'elle au moment de l'injection, hein, l'épaule à l'air évidemment, mais toujours stylée. Il y a eu Michelle Obama, l'ancienne première dame, Dolly Parton, star de la country aux États-Unis, ou encore la mannequin Lily Collins, qui a affolé la toile lors des derniers Golden Globes avec sa robe à épaule dénudée. En France, on se souvient tous du buzz lors de l'injection d'Olivier Véran, pectoraux à l'air, les photos de célébrités pendant l'injection, meilleure publicité pour le vaccin.
Ouais, alors on imagine que derrière, en tout cas, si c'est un coup de com' à la base, ils ont quand même réussi leur coup. Les marques s'y intéressent, j'imagine.
Évidemment, hein, elles ont bien compris qu'il y avait là une très belle opportunité. Toutes les grandes marques relancent leur modèle asymétrique. La Palme revient au site américain Revolve, qui a même créé une catégorie sur son site internet, Vaccine Ready, regroupant tous les modèles à épaules nues. De quoi faire beaucoup rire cette internaute américaine, Danny Cole, dont la vidéo sur TikTok est devenue virale.
They're all shirts.
Des fringues que vous pouvez porter pour votre rendez-vous de vaccination, mais ça va pas. Et vous l'entendez rire, hein, tout le monde ne prend pas cette mode au sérieux.
on verra cet été si on voit des épaules nues partout.
Un bikini épaule nue.
Et ce style asymétrique. Donc une seule épaule nue pour se faire vacciner. Martin Lange pour les réseaux sociaux. 5h54. L'histoire du jour dans On ne la raconte, c'est l'enquête sur le meurtre de Valérie Bechtel en 1991 dans les Vosges, qui connaît 20 ans plus tard à La Rochelle un rebondissement inattendu et vous le verrez très déconcertant. On ne la raconte, c'est à 14h chaque jour sur Europe 1. Premier podcast de récits que vous trouvez sur la plateforme Europe1.fr et sur toutes vos plateformes dès maintenant pour l'épisode du jour. 5h55.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour Sébastien.
Notre planète, chaque matin sur Europe 1, des solutions pour changer la donne sur l'environnement. On va regarder notre planète avec vous Virginie ce matin, grâce à un outil inédit qui vient de sortir. Vous nous le faites découvrir, un nouveau Google Earth qui permet d'observer de ses propres yeux les transformations de nos paysages depuis 40 ans.
Oui, vous avez probablement déjà essayé de vous balader sur Google Earth, ce logiciel qui vous montre votre maison, votre jardin ou n'importe quel endroit de la planète vu du ciel grâce aux images satellites de la NASA et de l'Agence spatiale européenne notamment. C'est déjà assez fascinant, mais là, Google franchit un grand pas technologique avec l'aide des scientifiques américains et européens. On peut désormais regarder comment tel glacier, telle ville ou telle plage a changé en quasiment 40 ans. Au lieu de regarder une image fixe, on voit désormais son évolution en diaporama.
Et j'imagine que ça fait peur de voir les changements aussi rapides. Qu'est-ce qui est le plus spectaculaire ?
Alors, il y a la côte de Dubaï, elle était quasiment vierge il y a 40 ans, désertique, et aujourd'hui on voit des constructions partout, des îles artificielles en forme de palmiers, visibles depuis l'espace, ou bien dans la catégorie étalement urbain, l'expansion hallucinante de la ville de Las Vegas aux États-Unis dans le Nevada, cette relativement petite ville dans les années 80 qui a littéralement débordé sur le désert alentour. Il y a évidemment des glaciers dont l'évolution, la fonte est saisissante, comme le glacier Columbia en Alaska. Il y a aussi des phénomènes naturels magnifiques à observer, comme les plages de Cape Cod aux États-Unis sur la côte Est, qui se déplacent naturellement vers le sud. On a l'impression de voir le sable bouger sous nos yeux. Et puis au Brésil, à côté des coupes rases qu'on connaît évidemment de la forêt amazonienne, il y a ces endroits encore très verts parce que des peuples locaux ont défendu leurs terres et ça a marché, comme à Rondônia où on voit de la forêt tropicale presque intacte.
Comment Google a pu obtenir toutes ces images identiques, superposables de tous ces endroits ?
Eh bien, ils ont nettoyé soigneusement les images satellites. Ils ont par exemple gommé les nuages pour obtenir une netteté optimale. 20 millions d'images satellites de 1984 précisément à 2018. Et à partir de maintenant, il y aura une mise à jour chaque année pour qu'on puisse surveiller la Terre comme le lait sur le feu.
Merci à vous Virginie Salmen. Donc c'est à voir sur Google Earth, ce site qui vous permet désormais de regarder la planète 40 ans en arrière. 5h57.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1 si vous nous rejoignez au réveil. Il est presque 6h du matin, le 5-7 continue, nous sommes le vendredi 16 avril. La vie qui reprend dans les EHPAD grâce à la vaccination, nous en parlions à 5h40. Le calendrier du déconfinement qui commence à se dessiner avec la réouverture des premiers lieux culturels et des terrasses. Dans un mois maintenant. On regarde vers le futur avec optimisme ce matin. Et puis on s'arrête sur un changement profond de notre société. La parole qui continue de se libérer sur de terribles histoires. Il y a bien sûr eu l'affaire Duhamel, très médiatisée, mais il y a eu aussi tous ces autres cas d'inceste passés sous silence. Et bien ce silence est en train de se briser. Nous vous le révélons ce matin, le nombre de signalements est en très forte augmentation.
Suite au hashtag MeTooInceste, les gens avaient véritablement besoin d'en parler. Et qu'ils ne se sentaient pas le courage auparavant d'en parler.
Nos informations dans le journal de 6h et on en parle à 6h40 avec mon invité Édouard Durand. Il est magistrat, il co-préside la commission lancée le mois dernier sur ce sujet des violences sexuelles faites aux enfants. D'ici 7h, tous vos rendez-vous habituels, l'innovation du jour évidemment à Anis Mbida. Et votre revue de presse internationale, on ira en Angleterre à la veille des obsèques du prince Philippe qui se prépare. Et puis, on sera sur les côtes de Californie et dans les années 90 ce matin avec Omblin Roche dans la partition. Quand la musique punk s'éloigne des messages politiques et devient insouciante, le phénomène rock californien, quatre garçons qui voulaient simplement tuer l'ennui de leur banlieue. Voilà l'histoire de The Offspring, c'est à suivre à 6h20 avec Omblin Roche. Laurent Cabrol, est-ce qu'on va finir par sortir de ce froid du matin ?
Ah, ça vous obsède.
Hein. Il fait froid.
Oui, il fait froid encore ce matin. Hein, c'est froid. Un peu comme hier, moins 5 à Saint-Étienne, moins 4 à Vichy et Luxeuil en ce moment, moins 3 à Saint-Joire-Grenoble, enfin Grenoble-Saint-Joire, moins 3 à Épinal, moins 2 à Troyes, moins 1 à Mulhouse, 0 à Besançon, 2 à Clermont-Ferrand, 2 en banlieue parisienne, 3 à Lille, Toulouse et Lyon, comme à Nancy, 4 degrés à Paris seulement, 4 degrés à Nantes, 5 à Marseille, 8 degrés à Bastia. Alors pour répondre à votre question. Nous allons en sortir, bien sûr, surtout en fin de semaine. La fin de semaine, c'est aujourd'hui, me direz-vous. Hein. D'ailleurs, dimanche, les températures commenceront un tout petit peu à remonter. Et puis lundi, mardi, mercredi, là, nous aurons vraiment des températures douces avec un ciel le plus souvent ensoleillé. Ce sera le printemps totalement inscrit sur nos programmes. Alors pour la journée d'aujourd'hui, simplement beaucoup de nuages, beaucoup de soleil ce matin, mais très vite, les nuages vont arriver et ils vont toucher surtout la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, la région PACA et la Corse, qui seront, même l'Auvergne, qui seront touchés par des giboulées. C'est là que le mauvais temps, entre guillemets, sévira, encore que la pluie fait plaisir à beaucoup de gens.
Voilà. Si vous pouviez nous prévoir un beau ciel bleu pour la mi-mai, là, quand les terrasses vont probablement rouvrir, ce serait pas mal.
Si vous le voulez, je vous le prévois tout de suite.
À tout à l'heure,
pas
Laurent
difficile,
Cabrol.
Hein.
C'est fini de demander. Matin,
le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal sur Europe 1. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.